France Inter.
Aujourd'hui, l'invité au carré.
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et directrice de recherche CEA à Paris-Saclay.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Un soir, alors que je buvais un whisky, j'ai remarqué que les bulles emprisonnées dans les glaçons éclataient au contact du liquide. Nous avons alors pensé que ces bulles d'air pouvaient conserver intacte la composition de l'atmosphère au moment où la glace s'était formée. Et c'était vrai. Cette anecdote racontée par le glaciologue Claude Lorius allait changer le cours de l'histoire des sciences du climat. C'était en 1965, à la base française Dumont-d'Urville en Antarctique. Après une journée harassante de forage dans la glace, Lorius et son équipe d'hivernage s'offre donc un verre de whisky et y plonge un morceau de glace extrait de la banquise. Lorius observe les bulles d'air s'échapper lentement au fur et à mesure que la glace fond et une idée lui vient donc à l'esprit. Et si ces gaz contenaient des informations précieuses sur l'atmosphère passée ? Il venait de découvrir que les carottes de glace sont des trésors insoupçonnés avec leurs bulles d'air microscopiques, véritables capsules temporelles de l'atmosphère au moment de leur emprisonnement et leurs poussières d'aérosols et de cristaux révélant des indices sur les températures passées. Deux décennies plus tard, en 1987, Lorius et son équipe publient des résultats édifiants qui montrent une corrélation claire entre l'augmentation des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le réchauffement planétaire. Ces travaux fondés sur les carottes de glace ont pu documenter jusqu'à 800 000 ans d'histoire climatique. Ils montrent des cycles naturels réguliers entre périodes glaciaires et interglaciaires, brutalement interrompus par une hausse rapide du CO2 depuis la révolution industrielle. Durant sa vie, Lorius a participé à 22 expéditions en Antarctique, passant l'équivalent de 6 années sur le continent blanc. L'Antarctique, confiait-il, est le meilleur endroit pour se rendre compte qu'il y a un problème environnemental planétaire. Grâce à son eureka autour d'un verre de whisky, le passé des glaces continue de nous parler et de nous alerter sur l'urgence climatique. Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Les sciences du climat doivent donc beaucoup au whisky ? C'est ça la morale de l'histoire ?
Elles doivent beaucoup à des travaux pionniers. Peut-être pour situer dans le contexte, les premières mesures directes du CO2 dans l'air, en fait, c'est à la fin des années 50, à la Scripps aux États-Unis. Et ça avait donné lieu à la première alerte à un président des États-Unis en 1965, qui était d'ailleurs très connu par l'industrie pétrolière américaine déjà. Et effectivement, les mesures dans les glaces, à partir des travaux pionniers autour de Claude Lorius, Jean Jouzel, Dominique Reynaud, Jean-Robert Petit, elles ont vraiment montré cette rupture.
Vous qui avez également travaillé sur les archives naturelles des glaces de l'Antarctique, entre autres, pour comprendre les variations passées du climat, on va y revenir. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes née le 29 octobre 1971 à Nancy. Et voilà ce qu'on pouvait entendre ce jour-là au journal de l'ORTF, présenté par Jean Lanzy.
So Parliament's voted by this massive majority of 112 votes in favour of Britain joining the market.
Oui, c'est ainsi que les Anglais ont appris cette nuit qu'ils étaient désormais européens.
Eh bien, nous étions à Londres avec notre correspondant permanent, nous revoici à Paris. Deuxième titre de la journée, Monsieur Brejnev donc n'a pas visité comme c'était prévu l'exposition Picasso. On pourrait dire que le peintre a été sacrifié à la politique. Monsieur Brejnev est arrivé à l'Elysée à 11h20. Avant cette rencontre, le leader soviétique était allé à Flins visiter les installations de l'usine Renault. Autre nouvelle de France, dans le bassin Lorrain, première journée d'action contre le projet de restructuration des usines Sidelor de Wendel. Une marche vers la sous-préfecture de Briey au début de l'après-midi. La semaine prochaine, des actions de masse et des débrayages sont prévues.
Et voilà donc Valérie Masson-Delmotte, ce qui se passait le jour de votre naissance, le 29 octobre 1971, avec donc même cette info sur des mouvements sociaux dans cette Lorraine où vous êtes née.
Oui, mes parents ont d'ailleurs travaillé à Briey spécifiquement. Et c'est vrai que la Lorraine, elle a été marquée par une histoire lourde de désindustrialisation. Et elle réfléchit aujourd'hui, enfin la région Grand Est, justement, à comment on peut aligner une stratégie environnementale et une stratégie industrielle, une stratégie d'emploi.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents exactement ? Ils étaient ouvriers ?
Non, ils étaient professeurs d'anglais.
Ouais.
Enseignants. C'est à Nancy que je suis née. Ma famille, en fait, du côté de mon père et de ma mère vient de différentes régions de Lorraine.
Ouais. Dans un entretien au Monde en 2023, vous dites que vous étiez timide, garçon manqué, que vous détestiez les robes que vous découpiez au ciseau. Les jeux de filles, c'était vraiment pas votre truc, c'est ça ?
En fait, c'est pas ça. C'est quand j'étais petite fille, si on s'habillait en robe, c'était compliqué de pouvoir faire des pirouettes autour des balançoires, ouais. Par exemple, de jouer à l'élastique. Et donc, pour pouvoir bouger, pour moi, c'était plus agréable, en fait, ouais. D'avoir des vêtements qui ne dévoilaient pas mes sous-vêtements.
Ouais.
Et puis, j'aimais bien jouer dehors, bouger. Et donc... À l'époque, je me souviens qu'on m'avait appelé garçon manqué,
oui.
Et je répondais fille réussie.
Très bien, déjà le sens de la répartie, Valérie Masson-Delmotte, avec cette période où vous aviez déjà des passions, je crois que votre échappatoire c'était la lecture déjà, vous aviez des livres entre les mains sans arrêt.
Oui, j'ai adoré lire. En fait, quand j'étais très jeune à l'école maternelle, j'ai été souvent malade. Ma grand-mère m'a gardée à ce moment-là, un moment. Elle m'avait appris à lire, en fait. Elle était institutrice avant.
Ouais.
Et du coup, je suis rentrée à l'école primaire en sachant déjà lire. Et je lis très vite.
C'est-à-dire ?
Pour parcourir une ouais. page, je lis vraiment vite.
Et ça, vous l'avez appris parce que
je ne sais pas.
Avec la pratique ou...
Je ne sais pas.
Ouais. Même un roman, vous êtes capable de le lire très très vite.
Oui, hein. Un peu comme... je pense qu'on peut le décrire comme photographier un paragraphe plutôt que lire chaque mot.
Ouais.
Voilà. Et c'est très utile, hein, même pour relire des rapports du GIEC, c'est très utile.
Exactement ce que j'allais vous dire. Quand on a des milliers de pages à relire, du coup, on peut aller plus vite et vous arrivez quand même à synthétiser
toutes
les données.
Oui, et puis, pour moi, lire, c'est rencontrer d'autres pensées, voyager dans le temps, voyager dans l'espace. C'est aussi une distraction. C'est presque un épanouissement, le fait de lire, et ça fait vraiment partie de mon équilibre.
Il paraît que vous lisiez, je ne sais pas si vous le faites toujours, en marchant, c'est vrai ça ?
À l'époque, oui.
Ouais, plus maintenant.
En fait, j'allais donc 4 fois par jour au collège. J'avais un temps de trajet à pied assez long.
Ouais.
Et donc, j'avais parfois un livre à la main.
Ouais.
C'est dangereux, en fait, avec les trottoirs.
Et puis maintenant, vous faites du vélo aussi. Donc,
voilà, donc là, c'est pas possible.
C'est plus compliqué de lire en même temps. Vous étiez bonne élève, sportive aussi ?
Pas plus que ça, mais avec toujours une pratique sportive. Et j'ai fait longtemps du judo, par exemple.
Ouais. Et là, pareil, le judo, ça vous a servi pour la suite ou pas ?
Pour préparer certains échanges avec d'anciens ministres de l'éducation, parfois, oui.
Ouais. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs du judo qui peuvent vous aider dans ces cas-là ?
Alors, les valeurs du judo, je pense que c'est le respect de l'adversaire, le respect de soi. C'est le respect des règles du jeu. C'est une forme de stoïcisme, je ne sais pas comment le dire, mettre un peu à distance ses émotions et les choses comme ça quand on rentre sur un tatami. C'est aussi une recherche d'une forme d'équilibre. Voilà.
Et c'est aussi faire chuter l'adversaire quand même.
Alors pour cela, c'est moi j'aimais bien en fait le côté enchaînement à deux,
ouais.
qui est vraiment le côté recherche d'équilibre. Pour faire chuter un adversaire plus lourd ou plus fort que soi, en fait, il s'agit d'utiliser sa propre force.
Oui, c'est ça. Judo, Aikido, hein, c'est le même principe,
voilà. hein,
c'est de retourner la force de l'adversaire. Et votre goût pour la science, alors, il est né comment ? Parce que vous l'avez dit, vous avez plutôt des parents littéraires, professeurs d'anglais. La science est arrivée à quel moment, alors ?
Je pense que c'est essentiellement dans le cadre scolaire. Des enseignants. Qui m'ont donné le goût de la curiosité, en fait.
Des enseignants marquants ?
Oui, notamment quand j'étais au lycée, en première, un professeur de physique qui était remarquable, qui m'a vraiment donné le goût de la physique. Et un ami de mes parents, on allait souvent en vacances en camping ensemble, y compris sur le lac de Madine en Lorraine,
ouais.
Qui était professeur de sciences de la vie et de la Terre, et du coup, qui expliquait autour de nous un fossile, voilà, le mettait dans son contexte, le monde vraiment autour de nous, dans la pratique de loisirs. Et je pense que ça a joué. Et puis, un voisin de mes parents, qui était archéologue amateur. Et alors, du coup, pour moi, ça a été une révélation qu'en creusant dans la boue, littéralement, on trouve les vestiges gallo-romains ou néolithiques. Et alors ça, c'est assez fascinant. Le fait de pouvoir remonter dans le passé sur un endroit qui est occupé aujourd'hui. Et ça permet, en fait, de s'imaginer l'histoire d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres organisations au fur et à mesure du temps dans un lieu donné.
Et donc, c'est ce que vous avez fait plus tard avec les carottes de glace, finalement. Hein. C'était aussi une archive du temps, ça.
Ouais, les climats passés, ça recoupait plusieurs choses. Ça recoupait cette curiosité pour l'histoire des sociétés, l'histoire de l'environnement, mais aussi, en fait, la puissance de la physique à travers les outils de modélisation qui permettent de comprendre les mécanismes à l'œuvre pour le climat actuel, futur et passé. mais aussi l'utilisation de ces archives climatiques du passé. On peut dire que c'est comme des machines à remonter le temps.
Ouais.
Et souvent, moi, je donne l'image d'un puzzle, c'est-à-dire chaque nouvelle archive, c'est comme une pièce de puzzle qu'on va mettre, qui va apporter des éléments complémentaires des autres. Il n'y a pas que les carottages dans les glaces, mais tout un travail qui s'est construit depuis les premiers travaux des naturalistes, et puis les progrès des méthodes de datation, de l'utilisation en fait de mesures très fines pour extraire des informations quantitatives. Et c'est vraiment cette idée de pièces de puzzle successives qui permettent de reconstituer presque en quatre dimensions, depuis le fond de l'océan jusqu'en haut des calottes, et au fur et à mesure du temps, cette histoire du climat de la Terre.
Et ça, on peut remonter jusqu'où ? Je parlais de 800 000 ans tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller au-delà maintenant ou pas ?
Alors, il y a une équipe européenne dans laquelle contribue ma collègue Amaëlle Landais, qui fait un travail remarquable, pionnier sur l'étude des carottes de glace aujourd'hui, qui a extrait de l'Antarctique, près du Dôme C, des échantillons qui pourraient permettre de remonter sur 1,2 million d'années.
Ah oui.
Et ça, c'est assez exceptionnel, parce que, vous l'avez décrit tout à l'heure, le climat à cette échelle de temps, le grand moteur de ces variations, c'est la trajectoire de la Terre autour du Soleil, qui répartit différemment l'ensoleillement au cours du temps, puis le climat y réagit. Et ça entraîne une succession de périodes douces interglaciaires et de périodes froides glaciaires parce qu'il y a des effets amplificateurs de l'englacement, des variations naturelles de l'effet de serre. Et ces rythmes de glaciation ont profondément changé entre la période d'il y a 1,2 million d'années et 800 000 ans, avec notamment des périodes glaciaires plus intenses et plus longues. Et on ne comprend pas encore complètement les rouages de cette réorganisation. Donc connaître précisément la composition de l'atmosphère passée à ce moment-là, ce sera un des éléments essentiels pour mieux le comprendre.
Ouais. Et alors cette histoire de climat, ça arrive quand finalement dans votre parcours, Valérie Masson-Delmotte ? C'est vous qui avez choisi de travailler en climatologie ou c'est le hasard qui a fait que la climatologie vous a choisi ?
Non, c'est vraiment un choix. Donc c'est venu au lycée avec notamment un magazine de vulgarisation scientifique au CDI, qui en fait, donc c'est au milieu des années 80, montrait les progrès vraiment des méthodes. Et il y avait l'observation de la Terre depuis l'espace, le fait de pouvoir par exemple observer les nuages depuis l'espace, leurs propriétés. Moi j'aime bien regarder les nuages pour plein de raisons, hein. Je trouve que c'est très beau aussi. Les premiers travaux de modélisation du climat en France, climat actuel, climat passé, climat futur, et puis les travaux justement dans les glaces polaires. Il y avait ces trois aspects qui étaient couverts.
Et ça, lycéenne, ça vous touche
hein. Et je l'ai gardé en fait, je l'ai acheté après.
Ouais.
Et je l'ai gardé, ce magazine, au long de mon parcours lycéenne et étudiante. Après, j'avais aussi lu le livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie, Le climat depuis l'an 1000, et d'autres livres en fait, qui parlaient climat à la fin des années 80. Ensuite, je m'étais posé la question de passer le concours de l'École nationale de la météorologie, quand j'étais en classe préparatoire. Et à l'époque, mes profs m'avaient poussé à continuer en deuxième année, essayer des concours d'école généraliste. Je suis rentrée dans une école d'ingénieur et après, j'ai vraiment fait le choix d'aller chercher un stage dans un laboratoire de recherche en sciences du climat.
Où vous travaillez toujours, finalement.
Voilà. Et après, m'être spécialisée en physique des fluides. Et je veux aussi remercier en fait, les enseignants que j'ai eus à l'école centrale, notamment Sébastien Candel, par exemple, sur ses cours de mécanique des fluides, qui étaient passionnants, que j'ai recroisés cette semaine et que j'ai remercié aussi.
Valérie Masson-Delmotte, on va écouter la voix de Jean Jouzel, qui a joué un rôle majeur, justement, dans votre parcours et au CEA en particulier. Ça, c'est un son de 1980.
Voilà que depuis 4 ans maintenant, nous apprenons que l'équilibre de la planète est très fragile, qu'il y a des trous dans l'ozone et que la planète se réchauffe et surtout que l'homme y est peut-être responsable pour partie. Est-il vrai qu'il y a un réchauffement de la Terre ou non, monsieur Jouzel ?
Oui, il est vrai qu'il y a depuis une centaine d'années un réchauffement de la Terre de l'ordre de 1,5 degré. Ce dont on est sûr, c'est que l'homme modifie la composition de l'atmosphère en composés qui ont un rôle climatique.
Attendez, je veux comprendre les choses de façon très très simple. Quel est votre travail ? Vous travaillez avec les glaces de l'Antarctique. Pourquoi ?
Effectivement, pour comprendre ce qui va se passer dans l'avenir, nous nous tournons vers le passé.
Voilà, ça c'est 1989. Ça nous paraît être un temps tellement reculé déjà, Valérie Masson-Delmotte. Pourtant, toutes les infos sont là finalement sur l'histoire du climat.
Oui, et puis les premières mesures du réchauffement, c'est calendar 1938, la hausse du CO2, comme je le disais, dans les années 50. Le premier rapport scientifique de l'Académie des sciences américaines sur le climat 1979. En fait, les bases de la compréhension, de l'observation, de la physique des processus, elles n'ont fait que s'affiner depuis le milieu du 19e siècle même, et avec les avancées des observations, de la force de modélisation. Cette intervention de Jean Jouzel, elle est remarquable. Dans les années 90, d'ailleurs, c'est là où le CEA a choisi de renforcer des travaux qui existaient déjà depuis les années 60 en géochimie isotopique pour l'utilisation de techniques physiques pour l'étude des climats passés.
D'où le lien entre le commissariat à l'énergie atomique et le climat, parce qu'on pourrait se demander quel lien il y a entre les deux.
Voilà, le CEA qui fête ses 80 ans cette année a choisi, donc dès le départ, d'avoir l'utilisation des méthodes physiques pour l'environnement dès les années 50-60. Et puis dans les années 90, ça fait le choix d'investir avec les moyens de calcul, également dans la modélisation du climat. Et j'ai rendu récemment hommage à Robert Dautray, à la demande de l'Académie des technologies et des sciences, qui était un grand physicien du CEA et qui a joué un rôle moteur. Et en fait, c'est grâce à cela que j'ai pu avoir une bourse de thèse. Donc, au début des années 90,
hein.
Et aussi grâce à la confiance de Sylvie Joussaume, qui était ma directrice de thèse, qui elle-même avait été doctorante avec Jean Jouzel. Mmh.
On parlait de Claude Lorius tout à l'heure en Antarctique, Valérie Masson-Delmotte, vous qui travaillez sur les carottes de glace justement, est-ce que vous avez été amenée à vous déplacer en Antarctique ou vous avez choisi d'autres régions du globe ?
Alors, moi j'ai travaillé au laboratoire à partir d'échantillons et de mesures de carottage qui venaient de l'Antarctique, de régions de montagne comme du côté du Tibet,
ouais,
avec des partenariats franco-chinois, mais également du Groenland.
Mais ça veut dire que
été en Antarctique.
Oui, c'est ça, ouais.
À l'époque, en fait, donc moi d'abord, ma thèse portait sur la modélisation de climat passé, et ensuite, j'ai été recrutée par Jean Jouzel dans le cadre de grands programmes européens, EPICA, pour travailler sur les carottages en Antarctique. J'ai eu des jeunes enfants, donc c'était compliqué de pouvoir aller sur le terrain. Par contre, j'ai participé à deux campagnes de carottage au Groenland, donc en 1997 et en 2008,
ouais,
à chaque fois pendant à peu près 2 mois sur le terrain.
On va se retrouver dans un instant pour évoquer une autre page importante de votre parcours, c'est celle du GIEC, une page, que dis-je, un chapitre. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes notre invitée au carré.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Notre invitée au carré, Valérie Masson-Delmotte, cet après-midi. Dans ce parcours de paléoclimatologue, Valérie Masson-Delmotte, vous allez ouvrir un nouveau chapitre avec le GIEC. À quel moment vous prenez connaissance d'abord de ces rapports ?
En fait, le deuxième rapport est sorti quand j'étais doctorante. Et du coup, ça a été une vitrine formidable sur l'état des connaissances à l'époque. Ça sert en fait beaucoup les rapports du GIEC aux scientifiques, avec cet état des lieux collectif qui est fait à un moment donné de l'état des connaissances. Ça permet de s'approprier l'état des connaissances sur d'autres domaines que ceux sur lesquels on travaille directement. Après, le rapport suivant, je m'en suis servi pour enseigner, le troisième. Et puis, j'ai contribué au quatrième rapport en 2007 et au cinquième en 2013, à chaque fois dans les chapitres sur les climats passés, en coordonnant ce chapitre en 2013.
Et à quel moment vous acceptez d'intégrer en fait l'organisation ?
En fait, alors je voulais juste mentionner que ma première expérience d'évaluation de l'état des connaissances, c'était sur l'Antarctique, avec un travail Antarctique, climat, environnement, vraiment transdisciplinaire. Et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte de l'intérêt aussi de travailler, pas simplement produire des connaissances, mais avec un pas de recul, faire une synthèse qui soit utile pour la société, pour d'autres.
Donc il y avait un travail de vulgarisation là déjà, que vous aviez en tête pour pouvoir livrer la connaissance au plus grand nombre, hein, ce qui n'avait pas été fait auparavant.
Alors le côté vulgarisation, je l'ai eu dès le début, parce que dès le moment où je suis arrivée dans un labo de recherche, j'ai eu accès à des publications scientifiques spécialisées. J'ai approfondi ma compréhension de cela. J'ai mesuré le fossé entre ce qu'on produit comme nouvelles connaissances et puis la culture populaire, la culture générale autour de moi, parmi mes proches, mes amis, ma famille. Et donc j'ai tout de suite passé beaucoup de temps en fait à faire de la diffusion de connaissances, du partage de connaissances, des portes ouvertes, des fêtes de la science, des visites de scolaires. Ça a toujours été présent. Et donc le GIEC, c'est autre chose, parce que c'est une institution à l'interface science-politique, avec une coproduction de connaissances, avec un cadre qui a été construit à la fin des années 80, et pour fournir une évaluation qui soit extrêmement rigoureuse, exhaustive, transparente, donc qui prend du temps à produire. Et effectivement, j'ai été sollicitée à l'époque par le représentant pour le GIEC de la France pour candidater comme coprésidente pour le sixième cycle d'évaluation. C'était en 2014. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que j'étais d'une part capable de le faire et d'accepter de candidater en sous-estimant la charge de travail
oui, c'est ça,
à l'époque.
C'est pas comme simplement écrire des rapports, si je puis dire. C'est une autre organisation.
C'est structurer la préparation de rapports en écoutant les suggestions faites par les différents pays, en faisant des cadrages de ces rapports avec une centaine de scientifiques, et puis ensuite en sélectionnant les auteurs des rapports, en supervisant la préparation, s'assurer que ce soit complet, rigoureux, cohérent, et puis après distiller les points clés dans des résumés à l'intention des décideurs qui font l'objet d'une approbation spécifique par les représentants de tous les pays, ce qui en fait un socle scientifique commun. Et donc on voit bien que c'est sortir de son écosystème habituel de scientifique et accepter cet échange structuré avec les représentants des différents pays.
Donc ça, c'était nouveau pour vous ?
Voilà, c'était nouveau.
Ouais. Et vous avez aimé ça ou pas ?
J'ai trouvé ça passionnant, difficile parfois. Et toutes les tensions géopolitiques qui peuvent exister, bah, elles retombent aussi sur un cadre même d'approbation de rapports scientifiques. C'est aussi pour moi très riche de travailler avec des chercheuses et chercheurs de générations différentes et de pays, continents différents. Ça donne une profondeur de réflexion, une profondeur d'analyse. Et ça permet aussi de mesurer la force qu'on a comme communauté scientifique. Parce que finalement, nos recherches se complètent. Le regard critique, il permet de formuler de manière plus claire l'état des connaissances. Et les connaissances scientifiques, elles peuvent être dérangeantes par rapport aux intérêts géopolitiques de différents pays, indépendamment de ce constat scientifique partagé. Et pour moi, ça me motive davantage à réfléchir à ce que l'on peut faire en termes de diplomatie scientifique. Et je veux juste revenir sur la période de Claude Lorius et Jean Jouzel. Il faut se souvenir qu'à l'époque, du côté de Vostok en Antarctique, même pendant une période de tension type guerre froide, il y avait des collaborations scientifiques entre les Soviétiques, les Américains et les Français en Antarctique.
Et ça nous dit quoi par rapport à aujourd'hui, ça ?
Ça nous dit beaucoup de choses. Et ça montre aussi à quel point, dans la durée, les collaborations scientifiques, elles sont importantes pour les échanges d'idées entre les différents peuples.
Valérie Masson-Delmotte, aussi étonnant que ça puisse paraître, le GIEC, qui semblait être une organisation intouchable, fait aujourd'hui l'objet d'attaques régulières. Est-ce que vous avez vu, vous, les choses évoluer de l'intérieur, se durcir au fil du temps, et comment vous l'expliquez ?
Je me souviens en 2013, l'approbation du cinquième rapport, les représentants de l'Arabie Saoudite qui voulaient remplacer la description dans le préambule des sciences du climat par, c'était décrit comme des observations, de la compréhension de processus, de la modélisation. Ils voulaient remplacer ça par des hypothèses et des théories. Mmh. Et donc c'était vraiment à l'époque l'idée de vouloir décrédibiliser les bases mêmes de la physique du climat. C'est passé. Et donc au cours du sixième cycle, au départ, il y avait beaucoup d'attentes, une forte dynamique internationale autour des enjeux de soutenabilité, l'accord de Paris, les objectifs de développement durable. Et puis au fur et à mesure du temps, de 2015 à 2023, des tensions croissantes, pandémie, inflation, invasion de l'Ukraine, tensions géopolitiques, guerre commerciale. Mmh. Et la fin s'est passée dans un contexte beaucoup plus difficile, où toutes ces tensions rejaillissaient sur l'approbation. Mais aussi la difficulté de décarboner par rapport aux intérêts propres de différents pays, par rapport la vitesse de l'action pour le climat, par rapport aux vulnérabilités des autres, ça aussi, ça a rejailli sur les approbations, avec certains qui, bien sûr, ont cherché à affaiblir tout ce qui touchait aux énergies fossiles ou tout ce qui touchait au poids de certains secteurs agro-industriels dans la formulation des rapports.
Est-ce qu'une organisation comme le GIEC, vous la sentez plus fragile aujourd'hui, voire plus affaiblie rapport à
moi,
aux années précédentes ?
Alors moi, je ne suis plus directement impliquée dans le septième cycle, mais ce que j'observe
là-dessus.
De l'extérieur... mon expérience également sur le sixième cycle, c'est que certains représentants de pays cherchent à rendre l'institution obsolète. Donc, ils freinent toute évolution de l'organisation du GIEC pour la rendre un peu ancienne. ils freinent également, là, en ce moment, l'élaboration d'un calendrier précis pour le rendu des prochains grands rapports. Donc, ce qui a été acté, c'est un rapport spécial sur les villes qui est en cours de préparation pour 2027. Mais les rapports principaux des trois groupes, dont le cadrage vient d'avoir lieu, le calendrier n'est pas défini. Pourquoi ? Parce que certains pays voudraient que ce soit après le prochain bilan mondial de l'accord de Paris, pour qu'il n'y ait pas un constat scientifique solide qui puisse interagir de manière constructive.
Et donc contraindre.
Avec les étapes politiques.
Ouais.
Et puis moi, j'ai aussi été auditionnée récemment par les juges de la Cour internationale de justice qui ont été saisis à la demande du Vanuatu via l'Assemblée générale de l'ONU de la question des obligations des États par rapport aux dommages significatifs par rapport à la fois au système climatique et par rapport aux droits humains, notamment dans les pays les plus vulnérables, hein, les petites îles. Et c'est très frappant de lire les contributions orales et écrites des différents pays dans le cadre de ces auditions. On voit les pays industrialisés le plus tôt, comme les États-Unis, finalement rejeter toute responsabilité historique. On voit les pays exportateurs d'énergie fossile rejeter tout élargissement de leurs obligations au-delà de leurs émissions territoriales. Donc on voit bien un durcissement des positions par rapport au caractère universel au moment de l'élaboration de l'accord de Paris.
Il y a un GIEC sous pression aujourd'hui, très concrètement ?
Il y a un cadre multilatéral très fragile. Et jusqu'à présent, il était maintenu dans le cadre de l'approbation de rapports du GIEC. Et même dans ce cadre-là, cela devient fragile. Et les diplomates avec lesquels j'ai pu interagir récemment sont eux-mêmes très inquiets parce que ce qu'ils voient monter en puissance, c'est des diplomates de notamment certains pays au sud qui rejettent les faits scientifiques.
Ouais.
Ils les comprennent.
Ouais.
Mais c'est une position de considérer que c'est une science du Nord contre leurs intérêts. Et je suis extrêmement inquiète de ce que sera l'attitude de l'administration américaine Trump 2.
Donc, il y a un climato-scepticisme, dénialisme, comment vous l'appelez, vous d'ailleurs, à l'échelle de la planète aujourd'hui, hein, on le voit.
Ah, c'est de l'obstructionnisme, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, les faits sont compris, la gravité est comprise, et c'est plutôt simplement mettre des priorités immédiates de certains intérêts à court terme. Moi, j'appelle ça de l'obstructionnisme, et c'est notamment pour retarder la sortie des énergies fossiles, pétrole et gaz.
Autour du climato-scepticisme, il y avait aussi un événement marquant dans votre parcours, Valérie Masson-Delmotte, un véritable baptême du feu médiatique. C'était en 2010 face à Claude Allègre.
Alors, question de Valérie Masson-Delmotte, qui d'ailleurs a eu une lecture attentive et passionnée de votre livre.
Pour tout dire, j'ai hésité entre rire et pleurer en le lisant. Je pense que vous avez une position qui est apte à capter la sympathie des gens, parce que vous vous placez un peu seul contre les experts. Et j'ai une première question qui est de savoir, est-ce que vous pensez que je suis dévoyée, avide d'argent et de gloire, comme vous l'écrivez, par rapport aux scientifiques du climat ? Donc dévoyé, ça veut dire malhonnête. Hein. Est-ce que vous le pensez ?
Vous, non.
D'accord. Alors ensuite...
Vous, non, je ne crois pas.
Merci, ça me rassure.
Voilà, Valérie Masson-Delmotte face à l'ancien ministre et jeu chimiste Claude Allègre, dont on apprenait la disparition il y a 10 jours dans cette émission de Guillaume Durand en 2010. Quel souvenir vous gardez de cette passe d'armes, hein, de ce qui a été, je le disais, une sorte de baptême du feu médiatique pour vous ?
Horrible. Horrible parce que... comment dire ? C'est très compliqué d'arriver à montrer au grand public que des arguments assénés de manière rapide relèvent de la mauvaise foi ou de la désinformation. C'est un exercice très difficile en réalité. Et c'est disons que ça a été médiatisé dans le contexte, notamment après la conférence de Copenhague, qui marquait un enlisement, en fait, des négociations internationales sur le climat, d'une montée en puissance de la désinformation, avec des scientifiques brillants d'autres domaines, très reconnus dans leurs autres domaines, et qui ont publié des livres, qui étaient très présents dans les médias, où vraiment il y avait des choses fausses qui étaient répétées. Bon, la situation actuelle, elle ressemble aussi un petit peu, au sens où on a un enlisement COP29, des négociations internationales sur le climat. On le voit bien aussi avec ce qui va se passer aux États-Unis. Et du coup, ça donne beaucoup de place à des personnes qui vont raconter n'importe quoi, donc du déni, en fait. Hein. Mm-hmm. Du déni par rapport à la gravité. Un déni nouveau aujourd'hui par rapport à la capacité à agir, hein, ça change de forme, qui va essayer de saper la confiance qu'on peut avoir dans chaque option qui permet de décarboner ou chaque option qui permet de s'adapter à un climat qui change.
Oui, donc tout ça fait perdre beaucoup de temps, c'est ce que disait Jean Jouzel au sujet de Claude Allègre quand même.
Je pense que ça prend
de la place.
En étant
promoteur du climato-scepticisme, il a fait perdre du temps quand même à l'action.
Et donc du coup, c'est comment on arrive individuellement et collectivement à montrer qu'il s'agit d'imposture, qu'il ne s'agit pas de faits, mais qu'il s'agit d'opinions qui, elles-mêmes, relève de certains choix politiques et non pas de faits scientifiques.
Et ce qui est fou,
donc à
c'est
l'époque, ce que j'avais fait, c'était organiser une pétition qui avait été soutenue par près de 600 collègues français.
L'appel des 600.
C'est ça qui avait donné lieu à un débat approfondi à l'Académie des sciences et qui avait conclu forcément que l'effet lié à l'influence humaine sur la composition atmosphérique, le réchauffement climatique, les outils utilisés par les scientifiques du climat relèvent de la physique appliquée à cet objet-là et sont tout à fait crédibles.
Ça, c'était en réaction à un livre de Claude Allègre qui s'appelait « L'imposture scientifique » justement en 2010. Aujourd'hui, on se dit finalement les mêmes choses 15 ans plus tard. Alors même qu'on pensait que le climato-scepticisme s'était un petit peu fatigué quand même, et là on voit un retour en force précisément. Comment vous l'expliquez-vous, en France en particulier, où l'on s'écarte de plus en plus du consensus scientifique finalement ?
Il y a plusieurs choses donc. Aujourd'hui, on a la puissance supplémentaire des réseaux sociaux qui fait que la plupart des personnes ne s'informent pas en dialoguant avec des scientifiques, pas nécessairement à travers le rôle que jouent les journalistes pour apporter une information fiable, mais par ces réseaux sociaux qui finalement mettent au même plan une opinion, un avis, un fait, qui sont en fait très fragiles par rapport à des campagnes d'influence ou de désinformation à relayer largement. Donc je pense que ça a un facteur amplificateur. La situation actuelle d'inflation, de difficultés pour le pouvoir d'achat, elle conduit à mettre des priorités sur des urgences immédiates par rapport à la capacité de réflexion structurante dans la durée. Et puis l'instabilité politique, elle n'aide pas. Ce qui est très frappant en France, c'est l'affaiblissement même de la parole politique sur ces sujets-là et l'émergence de groupes politiques ou de personnalités de premier plan qui remettent aussi en cause les faits scientifiques sur le climat. J'ai vu récemment une interview assez longue d'un responsable de parti politique conservateur qui a parlé d'écologie pendant une heure sans mentionner les énergies fossiles. C'est quand même assez préoccupant.
Est-ce que vous êtes d'accord pour parler avec tout le monde, vous, Valérie Masson-Delmotte, justement, quand on parle de la classe politique, par exemple, certains disent qu'il ne faut surtout pas parler de ça avec l'extrême droite, par exemple. Est-ce que vous, vous avez une autre vision des choses là-dessus ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut...
Alors, je me suis rendue disponible pour les différents groupes de réflexion politique ou autre qui m'ont sollicité pour échanger. Moi, je présente des faits qui ne sont pas mes propres travaux, qui sont vraiment le résultat d'une évaluation collective à partir des rapports du GIEC, à partir de ce qui est fait, par exemple, à l'Académie des technologies sur
donc
certains sujets.
Donc, vous le faites avec tout le monde ?
Ou bien du Haut Conseil pour le climat. Tout le monde ne me sollicite pas. Après, j'ai parfois des conflits, moi, d'agenda ou autre. Et j'ai, notamment parce qu'il y avait un député du Rassemblement national qui avait indiqué, je crois, sur votre antenne que le GIEC exagérait. Je l'avais invité à venir échanger dans le laboratoire où je travaille, voir nos méthodes, nos résultats, échanger. Donc, deux de ces personnes, deux députés sont venus. On a eu l'occasion d'échanger de manière assez approfondie. Et ce que j'en ai retiré, moi, à titre personnel, c'est que malgré le fait que ces personnes puissent comprendre finalement le travail scientifique qui est fait, après il y a une offre politique qui est autre chose.
Et donc, cette offre de l'idéologie finalement,
c'est ça,
on passe de la science à l'idéologie.
C'est ça, et cette offre politique, eh bien, elle va passer sous silence les risques climatiques pour les Français, elle va passer sous silence les enjeux et les coûts de l'adaptation, et elle va passer sous silence une dépendance énergétique très forte. Plus de la moitié de l'énergie en France vient des énergies fossiles d'autres pays. On a dépendu la Russie, par exemple, puis maintenant les États-Unis pour une partie du gaz. Et ça s'est passé sous silence, même en revendiquant un discours de souveraineté et de protection. Et ça, c'est pour moi très difficile. Parce que
vous arrivez à garder votre calme quand vous êtes face à deux députés dont vous parlez là précisément.
Je
dans
reste
cet exemple.
À ma place.
Vous restez à votre place, mais vous faites tout pour arriver à les convaincre ou il y a un moment où vous lâchez l'affaire ?
Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit pour moi de partager des faits et de m'interroger comme scientifique, mais aussi comme citoyenne, sur la manière dont ces faits peuvent être, à un moment donné, parfois instrumentalisés, ça peut exister aussi, peuvent être rejetés. Et c'est pour moi une interrogation profonde sur, finalement, l'organisation de notre société, la manière dont on a un clivage dans les différents mouvements politiques qui sapent la capacité à agir pour l'intérêt général.
Et à l'échelle mondiale.
Et dans la durée.
Évidemment.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Ce que je sais, c'est que si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix.
Et qui est-ce qui paiera le prix de l'accord de Kyoto ? L'appliquer coûterait à l'économie mondiale des centaines de milliards de dollars.
Avec le respect que je vous dois, monsieur le vice-président, la facture de l'inaction serait plus élevée que cela.
Professeur, notre économie est à sa manière aussi fragile que l'environnement. Peut-être ne faut-il pas l'oublier avant de faire du sensationnel à bon compte.
Eh bien, le dernier morceau de glace qui s'est rompu faisait à peu près la taille de l'État de Rhode Island. Pour pas mal de gens, c'est un peu sensationnel.
Extrait du film Le jour d'après, Valérie Masson-Delmotte, vous qui êtes notre invitée au carré. Il y a pas mal de choses sensationnelles qui se passent en ce moment sous nos yeux. Les feux en Californie, les ouragans comme à Mayotte, les inondations en France et ailleurs. Et pourtant, peu de choses se passent en réaction. Comment vous expliquez-vous cette inertie précisément générale ?
Il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas. Je trouve qu'on ne dit pas assez que justement le protocole de Kyoto, l'accord de Paris ont permis d'éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre et que ça a permis de se mettre sur une trajectoire qui nous conduirait vers 3 degrés en fin de siècle et pas plus dans l'état actuel de nos connaissances.
Donc vous voyez le verre à moitié plein.
Que le respect des engagements déjà pris, s'il était tenu à horizon 2030 et au-delà, le Green Deal européen et le reste, ça pourrait nous mettre sur une trajectoire vers 2 degrés et demi. Et la neutralité carbone qu'on vise vers 2050, 60, 70, proche de 2 degrés. Donc c'est important de le rappeler, ça. C'est-à-dire, ce qu'on fait maintenant, ça compte en termes de la trajectoire sur laquelle on se place.
Sauf qu'on a tendance à brûler partout,
ce qu'on voit
dans
également,
tous les sens du terme.
Ce qu'on voit également, c'est qu'on a, je pense, depuis une quinzaine d'années, on se rend compte, par rapport à l'évolution des connaissances, qu'il y a une aggravation de la sévérité des impacts liés au changement climatique dans toutes les régions, même les plus riches. Qu'on a besoin de monter en puissance à la fois sur les investissements pour l'adaptation et la décarbonation. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a eu des évolutions sur certaines technologies qui permettent de répondre aux besoins en décarbonant. On sait ce qu'on peut faire sur le secteur de l'efficacité ou de la demande.
Donc il ne faut pas le mettre de côté, ça.
Donc on a une vision assez claire de ce qu'on peut mettre en œuvre, qui fonctionne. Et c'est là-dessus que se détourne aujourd'hui l'obstruction par rapport à l'action pour le climat. Et on sait que ça ne sera pas simple, que c'est difficile de le faire de manière juste et que c'est coûteux. Voilà. Mais ce que je veux également mentionner par rapport à l'extrait que vous aviez passé, il illustre bien, le climat se réchauffe, ce qui se passe affecte les régions polaires. Et par exemple, le devenir de l'écoulement de l'Antarctique, c'est une incertitude majeure, y compris sur la possibilité d'accélération supplémentaire de montée du niveau de la mer.
Donc sur les conséquences.
Exactement.
Encore et donc, beaucoup de questions.
Beaucoup de questions. Donc, la France, par exemple, elle a ouvert à consultation une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Et un point qui nous préoccupe, nous, comme climatologues, c'est aussi comment fournir, pas simplement la trajectoire sur laquelle on a le plus confiance, mais tout le spectre possible, y compris, finalement, les scénarios à très fort impact ou les éventualités à très fort impact. Et c'est important, en termes de gestion de risque, de pouvoir s'y préparer, pouvoir se préparer à un méga-feu à Los Angeles, pouvoir se préparer à une inondation de très forte intensité ou un ouragan de très forte intensité. Et ce qui peut être fait, c'est par exemple faire en sorte que les infrastructures critiques pour l'électricité, les télécommunications, l'eau, certains déplacements, fonctionnent même de manière dégradée. Parce que ça permet de mieux gérer les crises et de rebondir plus vite.
Dans l'extrait, on entendait parler de la facture de l'inaction qui serait plus importante que celle de l'action. C'est une vérité aussi à entendre, ça,
non ? Ça n'a fait que s'affiner. Et tout ce qui permet, tout ce qu'on investit dans la prévention, la gestion de risque, l'adaptation au changement climatique et la décarbonation, en fait, il y a un retour sur investissement par rapport d'abord à une économie qui sera viable en elle-même. Par les investissements, mais aussi par rapport aux impacts évités.
C'est là le problème. C'est là-dessus qu'il faut arriver à convaincre ceux qui nous dirigent. C'est que l'investissement, justement, il est plus intéressant que de ne rien faire par rapport au coût que ça va représenter un peu plus tard, et même déjà maintenant, d'ailleurs.
Oui, et ce qui est très bien compris, c'est investir, c'est aussi désinvestir de certains secteurs. Et c'est là où ça frotte.
Oui, sur les énergies fossiles en particulier. Vous avez annoncé quitter le réseau X, ex-Twitter, le 20 janvier prochain, Valérie Masson-Delmotte. C'est un mouvement mondial. En France, c'est Hello Kit X, impulsé par le chercheur et mathématicien David Chavalarias du CNRS, qui appelle donc à quitter Twitter le 20 janvier avec l'investiture de Donald Trump pour boycotter ce réseau qui véhicule de la haine et de la désinformation. C'est ça l'objet aussi de votre départ, vous ?
Moi, j'invite les personnes avec lesquelles j'avais le plaisir d'échanger sur Twitter X. J'avais passé beaucoup de temps à faire des fils détaillés par rapport à l'état des connaissances sur des sujets d'actualité par rapport au climat ou par rapport au climat passé, par exemple. Je les invite à me rejoindre sur Blue Sky, où je retrouve ce que j'avais aimé au début sur Twitter, des algorithmes pas biaisés, qui donnent d'ailleurs plus de visibilité aux jeunes scientifiques, parce qu'ils ne sont pas biaisés par le nombre de personnes qui vous suivent, et ce qui compte, c'est la qualité du contenu. On peut très rapidement trouver des fils par thématique qui vous intéressent, notamment sur tous les domaines scientifiques. Les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche s'y déplacent. Et donc, du coup, oui, je fermerai sans regret le compte X, qui est un lieu de désinformation, de dénigrement de scientifiques, qui est grave. Hein. Par exemple, lors d'événements extrêmes, le foisonnement de désinformation sape en fait la mise à l'abri des gens. Donc on touche à des choses qui sont très graves, on l'a vu récemment. Le choix d'algorithmes qui sont clivants sape en fait la capacité de délibération collective. Et c'est très frappant quand on sort de ce réseau qui est devenu toxique et haineux, et qu'on va sur un réseau qui permet de dialoguer de manière constructive, c'est tellement plus agréable en fait.
Donc il y a un enjeu aujourd'hui de retrouver de vrais espaces de réflexion, d'échange.
Alors sur le fond, c'est une question du rôle des réseaux sociaux dans la vie démocratique. C'est une question de fond, même dans la relation entre science et société par rapport à la place accordée à la désinformation. Et là, on ne parle pas de la liberté d'expression. On parle en fait de la fabrique du mensonge, de la fabrique du doute, d'influence qui vise à mettre au même niveau cette désinformation avec des faits scientifiques. Il y a vraiment une réflexion profonde à avoir, je pense, hein, sur la place des faits scientifiques dans la société et sur la manière dont on peut les défendre. Qu'est-ce qui nous fait, nous, être européens ? Ce qui nous fait être européens, c'est aussi une construction du droit, par exemple, sur la liberté d'expression, qui n'est pas la même qu'aux États-Unis. Et ça demande vraiment à s'interroger collectivement sur notre attachement à la démocratie, notre attachement aux faits, à la science, dans des contextes où même parfois le constat scientifique peut être dérangeant, je le comprends bien, mais c'est important d'y réfléchir sur le fond.
Enfin, l'Europe, il va falloir qu'elle se réveille face à l'impérialisme américain, face à l'ingérence russe également. Là, il y a un enjeu majeur aussi pour nos pays européens.
Oui, nos démocraties sont fragiles, elles sont fragiles, et on l'a vu sur des interventions par TikTok, par exemple, hein, sur des élections récemment.
Qu'est-ce que vous allez faire là dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, Valérie Masson-Delmotte, après c'est combien, 8 années au GIEC à peu près, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais, donc là, vous êtes passée à autre chose. Est-ce que d'abord, vous avez repris la recherche ? Est-ce
oui, bien
que
sûr.
Vous refaites de la science ?
Oui, tout à fait.
Vous êtes dans votre labo avec vos carottes de glace, ça y est ?
Alors, je ne suis pas dans le labo pour faire les analyses, mais je suis dans le labo pour travailler sur l'interprétation de résultats et des publications. Donc, tous les ans, on réactualise les rapports du GIEC sur les indicateurs clés de l'état du climat et l'influence humaine. On le rend tous les ans au mois de juin avec des collègues de différents pays. On travaille actuellement sur la manière dont on pourra discerner quand on aura franchi un niveau de réchauffement et pas une seule année comme en 2024 oui. D'un degré et demi sur la base des données disponibles. Je copilote un projet européen qui s'appelle AWACA, où on travaille sur des méthodes innovantes pour tracer le cycle de l'eau en Antarctique, notamment avec les outils d'isotopes de l'eau. Et donc le même outil, nous, il nous permet de tirer une information climatique de l'analyse des carottes de glace. Là, on va avoir des instruments qui ont été déployés en ce moment sur le terrain, qui vont nous permettre de tracer les échanges entre le transport par l'atmosphère, les échanges avec les vents de surface, avec les précipitations, la formation des nuages et la neige. Et donc c'est à la fois pour mieux exploiter l'information dans les carottages, dans les glaces, mais aussi mieux comprendre le transport d'eau par l'atmosphère et ses propriétés.
Donc il y a un gros travail sur l'épaule là encore. Finalement.
Tout à fait. Et avec un enjeu d'avoir finalement une vision stratégique française sur la recherche polaire, la stratégie polaire nationale. Ça avait été engagé précédemment. Et puis suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a un vide. Donc il y a un travail en cours de reconstruire une stratégie scientifique et puis avec le besoin de visibilité pour les financements pour cette recherche aussi.
Valérie Masson-Delmotte, pour les chercheurs du climat comme vous, quel est l'état d'esprit aujourd'hui ? J'allais dire, le moral est bon ou pas là, dans les couloirs de vos labos ?
Dans les couloirs des labos, il y a
de tout. Quoi on parle ?
Il y a des gens qui ne font que de la recherche et qui essaient de construire une façon de se protéger pour pouvoir être disponibles pour leur travail de production de connaissances.
Donc qui restent un petit peu imperméables à ce qui se passe à l'extérieur ?
Ou qui s'en protègent.
Ouais.
Et il y a aussi en fait un sens très aigu de la responsabilité pour mesurer, réduire notre propre empreinte carbone, c'est très net, professionnaliser cette approche-là. Il y a également certains collègues qui sont très inquiets, qui cherchent différentes formes d'engagement, qui sont parfois en colère. Tout est présent.
Il y a une forme d'éco-anxiété chez les climatologues aujourd'hui ?
Je ne dirais pas éco-anxiété, mais on est en première ligne.
Ouais.
On suit partout dans le monde les caractéristiques climatiques qui entraînent des impacts graves. On voit à quel point on n'y est pas prêt. Et en même temps, on a des informations qui peuvent permettre d'agir. On travaille pour mieux les produire, mieux les partager. Et c'est plutôt ce côté-là qui est notre spécificité.
Mais est-ce que vous observez plus d'engagement de la part des scientifiques ?
Très nettement. Une
volonté d'aller vraiment sur le terrain de la société, de sortir un peu de sa tour d'ivoire,
Oui, très nettement. Et notamment les plus jeunes qui viennent au Sens du Climat, ils y viennent parce qu'ils cherchent un sens à leur parcours. Et que pour eux, c'est intolérable de ne faire que produire des connaissances. Donc, ils se sentent en fait une responsabilité par rapport à la société. Et pour moi, cette responsabilité, c'est aussi prendre la parole par rapport à de nouvelles influences sur le débat public. Par exemple, aux États-Unis, le fait de promouvoir très massivement la recherche, voire le déploiement de la géo-ingénierie, modifier le rayonnement solaire, des interventions dans les régions polaires. Et ça fait aussi partie d'un travail scientifique dont je fais partie, pour montrer en fait que ça passe pas parfois des tests basiques de plausibilité, et donc que ce sont des distractions dangereuses, y compris pour nous, et l'effort de recherche qu'on peut consacrer à cela par rapport au reste.
Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte d'être venue aujourd'hui à notre micro. Vous étiez notre invitée au carré.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Et on se quitte avec vos messages à l'heure du répondeur de l'émission.
C'est Sandrine de Montpellier. Alors, j'ai compris 10% de l'émission d'hier sur l'univers violent, mais c'est super tout de même que vous invitiez des personnes qui parlent à notre intelligence. Ça change des hommes et des femmes politiques. Allez, bis à l'équipe, je vous aime.
Bonjour la Terre au carré, c'est Julie et je viens de la Gironde.
Bonjour, il y a Mickaël Despier aussi en Gironde également. On voulait vous faire un petit mot pour vous remercier pour tous les répondeurs. Vous dire que c'est un moment très agréable parce qu'il y a souvent des questions pertinentes à poser et ça permet aussi de verbaliser des choses qu'on ne sait pas forcément dire.
Ouais, et puis des fois, ça développe des choses en plus de l'émission, donc c'est super. Petit message pour dire continuez les messages et on vous en fera s'il vous en manque. Allez, au revoir.
Oui, bonjour Mathieu, mon prénom c'est Alain, la ville c'est Port-Louis dans le Morbihan. Voilà, je suis un capitaine de marine marchande qui lance un cri d'alarme. Nous assistons en ce moment à l'arrivée des bateaux participant à la course à la voile du Vendée Globe, qui nécessite des millions d'euros d'investissement, alors que nos bateaux traditionnels du patrimoine maritime sont totalement ignorés et tous en danger de survie. Nos vieux gréements nécessitent des entretiens dus à leurs âges et malheureusement, nous n'en avons plus les moyens. Je lance ici un appel aux mécènes afin qu'ils se rendent sur le site de l'association Marin du Monde. Merci à tous et merci de ne pas ignorer le patrimoine maritime. Bien à vous.
Bonjour Mathieu, je m'appelle Pierre, je t'appelle de Paris et je viens d'écouter la chronique de Paloma Moritz. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Nous avons plus que jamais besoin de partager la même réalité climatique pour pouvoir imaginer ensemble les façons de s'en sortir. C'est exactement la raison pour laquelle ça fait 5 ans que je suis très investi avec l'association Fresque du Climat et d'autres associations qui permettent de bien comprendre la situation climatique grâce à des ateliers qui sont sympas, collaboratifs, dans lesquels on passe un bon moment et on trouve de l'énergie pour agir avec le collectif. En France, ce mouvement citoyen a pris une ampleur assez incroyable. Il a touché d'abord les citoyens, puis les grandes écoles, les universités. Il a ensuite atteint les entreprises et même les hautes sphères de l'État. Et c'est comme ça que cette année, j'ai eu l'opportunité même de former des cadres dirigeants de grandes entreprises et des préfets ou encore des magistrats. Et grâce à ces actions, la compréhension de la crise climatique, elle progresse réellement, mais il reste encore énormément à faire. Alors j'invite tous les auditeurs à s'engager en organisant des ateliers avec la Fresque du Climat, d'Automne ou l'association Inventons nos vies bas carbone, dans votre association, dans votre entreprise, avec vos proches. Et de mon côté, je pars poursuivre cet engagement au Brésil cette année, pays qui accueillera la COP30 à la fin de l'année. Je pars avec ma copine et on part en voilier dans quelques jours depuis la France. Bonne fin de journée à tous et longue vie à la Terre au carré. Au revoir.
Bonjour la Terre au carré, Aurélien de Gap. Je voulais vous partager mon avis sur votre émission qui me plaît depuis une bonne presque dizaine d'années quand c'était déjà Tête au carré. Je suis de formation ingénieur. Maintenant, je suis technicien dans le photovoltaïque. Je trouve que la Terre au carré, le nouveau format est toujours très intéressant. Cependant, pour moi, ça manque de concrétisation, vous voyez, d'invités qui font des métiers qui sont concrets. Des agriculteurs, des charpentiers, des photovoltaïciens, des installateurs de pompes à chaleur. Voilà, je trouve qu'il manque un peu les mains du pays. Il y a beaucoup les têtes du pays, mais malheureusement, il y a quelque chose d'important pour moi. Je pense que dans la vie, il n'y a que la pratique qui marche. La théorie, ça, c'est utile. Ça nous permet de réfléchir, de discuter, mais à la fin, il y a besoin de la pratique. Et je trouve que la radio peut être aussi un vecteur de cette pratique. Bonne journée à tous et merci de faire cette émission.
Et merci beaucoup Aurélien pour votre message très intéressant. Il va falloir qu'on travaille plus sur les mains au carré, donc après la tête au carré. Merci pour vos remarques constructives. En tout cas, c'est un sujet de réflexion pour nous. 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur. Merci Anaïs Reynard et Enzo d'Hospital.